Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Olivier Liron et il a bien voulu me parler du livre de neige.
Justement, je voudrais parler maintenant du livre de neige. Pour moi, rien que le titre, déjà, il rappelle Danse d'atomes d'or dans l'idée qu'on va nous raconter quelque chose, la jeunesse de quelque chose ou en tout cas une mythologie. Et là, c'est la mythologie de la mer.
Tout à fait. Très juste. Très juste.
Sur la quatrième de couverture. Et puis, c'était ce que tu m'avais dit avant qu'il ne paraisse, quand tu étais encore en train de finir de l'écrire. Tu me disais que c'était un cadeau pour ta mère. Est-ce que tu le lis toujours comme ça?
Oui, parce que c'est très juste que tu dis. Fait que le livre s'appelle Le Livre de Neige, je dirais, va dans le sens de ce qu'on vient d'évoquer, à savoir que la réalité en littérature est reconvoquée, elle est retraversée par les mots, quoi, et par le langage, et par l'écriture, et par l'acte d'écrire, et par le livre. Donc, effectivement, il y a une dimension qui peut être tout à fait celle de la légende familiale, de la mythologie familiale, comme tu le dis très bien. Et c'est vrai que là aussi, je pense que c'est le parti pris que j'ai choisi, c'est-à-dire qu'il y a une dimension tout à fait assumée de se situer du côté du conte, de la légende, comme on peut avoir la légende dorée dans la géographie, sans que ce soit complètement une hagiographie, c'est-à-dire un texte à la gloire de quelqu'un, à la gloire de ma famille maternelle, de ma mère ou de mes grands-parents. Pas tellement dans ce sens-là, mais en enlevant le côté hagiographique, la dimension mythique, la dimension poétique, encore une fois, la dimension romanesque de ces destins en eux-mêmes, c'est-à-dire la manière dont ces histoires, donc c'est une histoire très simple, c'est l'histoire de ma famille maternelle, de mes grands-parents et ensuite de ma mère qui immigrent en France au début des années 60 et qui viennent d'Espagne, qui est un pays à ce moment-là très très pauvre, et puis encore sous la dictature franquiste. Donc cette histoire-là, très universelle, d'expatriation, d'exil et des difficultés qui aussi accompagnent l'arrivée dans un nouveau pays. Bon, ces questions-là, elles sont quand même, elles peuvent être traitées de plein de manières. Là encore, certes, il y a un aspect bien sûr plus historique et un substrat peut-être plus autobiographique que pour Danse d'atomes d'or, par exemple, mais néanmoins, ce livre donc a une part de récit, comme dans un film, on peut avoir des parts documentaires et des parties de fiction. Bah, dans ce livre-là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont effectivement très documentées parce que il y a une forme de à la fois de soucis de l'exactitude historique, il y a une dimension éthique, enfin presque de respecter, raconter l'histoire, de témoigner de ce que ça a pu être, mais aussi un effet et un bénéfice littéraire de ça, c'est-à-dire la précision des anecdotes, leur capacité à suggérer tout un univers en partant de petites anecdotes, donc d'histoires vraies, de choses qu'on m'a rapportées, que j'ai apprises en interrogeant ma famille maternelle et puis en lisant aussi avec un travail de documentation historique effectivement qui était important. On a une dimension de récit, puisque ça retranscrit à travers le destin de quelques individus, ça retranscrit aussi tout un pan de l'histoire sociale, voilà, qui est celle des années, en Espagne, plutôt après la guerre, hein, en Espagne, plutôt les années 40-50. La guerre est un temps un peu le déclencheur, mais la famille. Ah, pardon, il y a eu une interruption. La guerre était étant pas le déclencheur de l'exil dans ma famille maternelle, contrairement effectivement à pas mal de destins d'immigrés espagnols, puisque mes grands-parents étaient encore tout petits. Là, c'est vraiment un exil économique qui a aussi été massif dans les années 50-60. Donc, ça documente cette partie-là de l'histoire de l'Espagne et puis de l'histoire française, hein, destin d'une petite fille immigrée qui était ma mère. Et de l'importance notamment de l'enseignement, de l'école, des livres pour trouver sa place et s'émanciper. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect, je dirais, de récit. Et puis, il y a un aspect, oui, là encore, de fiction, de roman à travers la manière de raconter, la manière de parfois de prendre la parole pour dire qu'on ne sait pas tout, qu'on ne pourra pas tout dire, certaines choses ne nous ayant pas été transmises, ou certaines choses étant... susceptible de ne de ne de d'être de relever de la lacune, hein, de la béance aussi, ou parfois peut-être de l'amnésie, ou de quelque chose dont on ne veut pas se souvenir. Enfin, il y a toute une interrogation sur de quoi on peut se souvenir quand on a une petite fille, par exemple, qui a quitté son pays très jeune. Alors, du coup, ça, je trouvais ça intéressant, là aussi, le dialogue entre réalité et fiction, quoi. C'est toujours ça, on me dit, est-ce que vos livres, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je caricature un petit peu. Est-ce que c'est purement autobiographique ou est-ce que c'est complètement inventé, imaginaire? Bon, je pense que ce qui m'intéresse, c'est justement le dialogue un peu entre les deux. Donc, effectivement, il y a une expérience vécue, là, qui n'est plus du tout la mienne. Puis heureusement, au fil des livres, on a fait un petit peu fait le tour de soi et donc on a envie de peut-être s'interroger sur une mémoire qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins personnelle et qui est une mémoire pour le coup sociale, politique, collective. Donc là, cette mémoire-là de l'immigration, je dirais, de l'expérience comme ça, de l'exil, de l'immigration, bon, bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça suscite aussi des récits. Déjà, dans les récits que j'entendais de la part de mes grands-parents, il y avait déjà une part de littérature, il y avait déjà une part de réécriture, parce que ma grand-mère me transmettait sa propre version de l'histoire, de son histoire, une version qui parfois était édulcorée, ou au contraire amplifiée, au contraire exagérée, au contraire... Donc il y avait déjà une manière de raconter, et ça c'est parce que tous nos souvenirs sont déjà des souvenirs qui sont mis en récit. Et donc, évidemment, il y a une part de littérature à l'intérieur presque de la structure de notre propre mémoire collective. Et ça, les gens qui étudient les récits collectifs le savent bien. Donc, voilà, il y a une dimension effectivement beaucoup plus historique, clairement, dans le livre de Neige. Mais il y a aussi une réflexion sur la littérature et la manière qu'elle a de pouvoir réimaginer ce qui s'est passé, le donner à voir, le mettre en scène, raconter les émotions de ces personnages. Je dirais aussi tisser comme ça une histoire, un livre qui est... un petit peu comme un conte, quoi. C'est vrai que le livre de Neige étant la francisation complètement personnelle, hein, c'est-à-dire c'est un prénom que j'ai choisi, un prénom du personnage. J'aurais pu choisir, si ça avait été un pur récit, son prénom que je cite dans le livre, qui est Mari Nieves. Alors Mari Nieves, c'est son prénom à l'état civil, enfin en tout cas de petite fille en Espagne. Et Neige, c'est déjà un personnage de littérature, quoi. C'est effectivement un nom qui renvoie à un élément naturel, qui renvoie alors à l'origine de son prénom qui, comme tous les prénoms espagnols, renvoie à un des miracles de la Vierge Marie. Mais ça, c'est quelque chose qui traverse un peu le livre. C'est à la fois l'origine du prénom, puis comment ce prénom évolue de Marie Nieves à Maria pour simplifier quand elle arrive en France pour que l'administration soit plus simple, puis à Marie lorsqu'elle se marie, sans mauvais jeu de mots. Et donc finalement, l'histoire du prénom épouse la trajectoire de, je dirais, de Fran de d'une trajectoire de on dirait aujourd'hui d'intégration dans ses bons comme dans ses mauvais côtés, hein. Il n'y a pas du tout de manichéisme, je crois, dans cette trajectoire. Je raconte à la fois la grande violence parfois de certaines remarques xénophobes ou de certains préjugés sur le fait qu'elle est une petite fille espagnole, fille de femme, une femme de ménage, un ouvrier, que effectivement petit à petit elle arrive aussi à se faire avec une grande détermination, et puis les rencontres très importantes qu'elle va faire. Bon, il y a cette dimension-là où l'école devient l'école qu'elle trouve en France par rapport à l'école franquiste, qui est évidemment extrêmement conservatrice, va devenir une chance absolument incroyable. Donc je raconte à la fois toute la difficulté, et puis toute la splendeur, toute la joie que ce personnage de Niévès va trouver dans les livres, dans les études. Donc voilà, il y a cette dimension-là de raconter une belle histoire aussi, quand même, de raconter, de construire un conte qui serait le conte de cet exil. Voilà. Et évidemment que par là, sachant que je ne me situe donc pas vraiment du côté de la chronique pure et dure, mais plutôt du conte, je pense que ça peut être effectivement un cadeau, quoi, puisque ça a été perçu comme tel, redonner une dignité, redonner une valeur, redonner un récit à ces personnes et à ces personnages qui ont été ballottés comme ça par l'histoire, qui ont été rejetés à tous les stades finalement de leur vie, ou du début de leur vie, puisqu'à la fois on est rejeté du pays puisque le régime franquiste est très dur à leur égard. Je raconte un certain nombre de drames au sein de la famille, personnes qui ont pu être assassinées ou réprimées, etc. Puis il y a cet exil-là qui est finalement une amputation. Déjà, on perd sa langue, on perd sa famille, on perd ses amis d'enfance, les cousins, etc. Et puis, il y a à nouveau, il y a une grande humiliation de se sentir comme une paria à Paris, dans une ville qu'on ne connaît pas du tout et dans laquelle on va vivre dans une très, très grande pauvreté. Donc, il y a quelque chose comme ça de redonner de redonner une forme de dignité et de rendre hommage pour le coup à ce destin. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme de cadeau, on peut le voir comme ça, enfin, on peut le dire aussi autrement, mais il y a une dimension de la littérature a ce pouvoir-là, hein, de magnifier les existences qui ne sont pas justement dans les livres d'histoire, enfin qui sont pas des héros, voilà, les vies dans ce qu'elles ont de plus, voilà, de plus universel, de plus brut, hein, de plus à vraiment à ras des expériences sensibles. Il y a quelque chose qui est assez peu théorique dans le livre. Il y a des passages qui évidemment vont réfléchir à certains mécanismes qui peuvent être liés à ce que traverse le personnage principal, la petite Marie Niévès, mais globalement, on est vraiment avec elle, on est un peu à hauteur d'enfant, puis de jeune femme, et je cherche un petit peu à rendre. D'ailleurs, je l'ai beaucoup interrogée sur voilà, je suis beaucoup parti de son propre ressenti, ses propres souvenirs. Voilà, quelle peut être l'expérience au moment où elle est vécue de cette arrivée comme ça dans un pays étranger. Bon, ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose évidemment avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe plutôt que de juger positivement ou négativement la personne qui arrive, est-ce que c'est voilà, comment est-ce que la littérature peut aussi contribuer à se mettre du point de vue justement et qu'est-ce qu'elle va ressentir la personne qui arrive. Qu'est-ce qu'elle vit, elle? Et donc, c'est vrai qu'il y avait un déplacement et un décentrement de la subjectivité, puisque dans le livre, je reste conscient que je suis aussi dans une continuité de cette histoire et que moi, en tant qu'enfant, j'ai aussi un rôle. Et donc je m'inscris aussi dans cette histoire, parfois par des digressions, par des remarques ou par des souvenirs que j'ai moi-même partagés avec ma mère pour effectivement ne pas occulter le fait que c'est moi qui suis en train d'écrire cette histoire. Mais néanmoins, ouais, je crois qu'il y a une forme de cadeau, hein. Oui, en tout cas, c'est un livre qui a énormément, je crois, touché ma mère, hein, et les autres personnes de ma famille dont je parle, parce qu'effectivement, ça redonne une place à leur histoire, et donc c'est une manière aussi voilà, c'est une forme de réparation symbolique, a fortiori parce qu'il s'agit d'un livre, que ma mère est une grande lectrice, et que pour elle, un livre, voilà, c'est pas rien. Donc le fait de lui faire cadeau d'un livre qui s'inspirerait de sa vie, de sa trajectoire, c'est, je pense, le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Comme le livre a été écrit pour une grande partie pendant le Covid, où on était très inquiets pour nos proches, finalement, c'est vrai que ça avait beaucoup de sens de faire ce cadeau-là, quoi. Donc, c'est un livre que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à écrire. Alors, qui a été un livre plus long à écrire aussi, parce qu'il y avait un vrai travail de documentation. Voilà, c'est un livre dont je suis très fier, quoi. C'est un livre qui compte beaucoup pour moi aussi. Ouais.
Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu travailles beaucoup sur la mémoire et c'est effectivement, c'est toi qui es le passeur de mémoire, c'est toi qui chantes. Voilà, l'histoire et la manière dont tu le racontes, c'est que tu montres bien qu'il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Enfin, tu vois, tu avances, et puis finalement, tu dis, ah mais non, finalement, c'est pas comme ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est super intéressant de montrer aussi, du coup, ce que ça fait aux enfants. Enfin, aux enfants, il se trouve que là, c'est le conteur, que c'est l'enfant, le conteur, qui raconte l'histoire de ce qu'il a compris de sa mère et de ce qu'il comprend au fur et à mesure de ses recherches. On a l'impression d'assister à tes recherches, quoi. Voilà, donc c'est aussi ça qui est très fort, en plus de l'histoire qui est effectivement assez connu, hein, de l'exil économique, aussi bien en Espagne qu'au Portugal, en Italie, enfin voilà des.
Oui, complètement. C'est un livre qui, je crois, questionne avant tout ces thèmes-là, la question de la mémoire, de la transmission, de la filiation. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui, justement, a touché. C'est parce que je pense qu'on se demande tous, soit parce qu'on a soi-même envie d'écrire, pourquoi pas, autour de ses origines ou de la trajectoire de sa famille ou tout simplement sans avoir l'envie d'écrire un livre, mais simplement on a toujours effectivement ce questionnement sur l'histoire de nos parents, sur l'histoire de nos proches, et donc c'est intéressant de raconter la vie de voilà d'autres vies que la mienne, pour prendre la formule de Carrère. Je trouve que c'est un beau geste littéraire. D'ailleurs, D'autres vies que la mienne est un roman de Carrère que j'aime énormément. C'est mon, je pense, mon livre préféré de Carrère. Et c'est vrai que c'est intéressant comme démarche. Je me sens pas spécialement voilà proche. Enfin, pas une source d'inspiration directe, hein, ce livre de Carrère, mais je trouve cette formule assez et le livre qui le livre en lui-même très très beau. J'aime bien cette idée-là. C'est vrai qu'elle est très belle, quoi, l'idée qu'on raconte, et le fait de raconter d'autres vies que la sienne n'empêche pas la fiction, n'empêche pas l'imagination, n'empêche pas le, voilà. Mais effectivement, il y a une démarche qui est où la littérature s'ouvre et permet justement d'éprouver de manière expérimentale, hein, mais que ce soit pour l'auteur, l'autrice ou le lecteur, l'actrice, ça permet d'expérimenter quelque chose d'autre que nous, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête de... Alors, c'est peut-être effectivement, on peut partir comme ça très loin, dans tous les siècles, dans tous les, sur tous les continents. On peut, il y a quand même cette force-là qu'a la littérature, qui a été, ça a été très bien dit par, beaucoup d'écrivaines, d'écrivains. C'était que l'idée, que la littérature, quand même, elle est une force qui nous permet bah, de voyager, puis provoquer de l'empathie par sa nature même, par structurellement, parce qu'elle effectivement elle nous place dans l'intériorité de gens, personnages qui ne sont pas nous, quoi. Elle nous fait vivre des émotions différentes de celles qu'on pourrait vivre dans notre vie, dans notre existence sociale. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui est assez beau, quoi, comme démarche. Je pense que ce qui fait un peu le lien, effectivement. Si tant est que ce soit nécessaire d'avoir un fil conducteur entre tous ces livres, mais je pense quand même le thème de la mémoire, il est effectivement très important. Et c'est vrai qu'on part souvent d'expériences qu'on a soi-même vécues. C'était le cas de, en tout cas, des deux premiers livres. Et puis après, il y a quelque chose qui va plus vers une réflexion qui est un peu plus ouverte. Et Le Livre de Neige, donc, était mon dernier roman. Et puis là, je publie un texte qui va sortir en avril. Je ne sais pas si tu es au courant, et il s'appelle L'éloge des mousses. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un essai qui parle des plantes. C'est un texte qui est. Oui, il y a effectivement ce fil rouge-là, mais je crois que le fil rouge qui est le plus important, le point de départ de ce livre-là, c'était. Alors, plein de choses, là, vraiment plein de choses. Et c'était aussi un très gros projet, mais il y avait cette. Au-delà de toute la joie, je pense, qu'on peut trouver à effectivement s'intéresser au monde vivant, l'origine, effectivement, la filiation de cette passion, elle est assez anecdotique, en fait, dans le livre. Mais. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment au-delà de la joie que j'ai eue à m'intéresser à la nature, au monde vivant, c'était d'élargir encore cet aspect-là, justement. Au contraire, de vraiment de quitter un peu le domaine de l'intime et d'aller vers quelque chose, effectivement, qui est, pour le coup, encore plus vaste, qui serait une mémoire, quasiment une mémoire du vivant. Puisqu'on a des. Ça parle de plantes, que sont les mousses, qui sont en particulier très, très anciennes, presque 500 millions d'années. Donc il y a une mémoire quasiment. On est évidemment dans une autre échelle de mémoire, elle porte trace d'air qu'on ne peut même pas imaginer, en fait, dont on n'a absolument aucune trace. On ne peut absolument pas savoir à quoi ressemblait le monde il y a 50, 100, 100, 100, 100 farcirie 200, 300 millions d'années. On n'a aucune idée. Donc, ça questionne, hein, vraiment la dimension de la mémoire du temps de manière beaucoup plus philosophique, je dirais, et puis aussi de manière. Biologique, enfin botanique, etc. Mais il y a vraiment le lien avec la mémoire. Oui. Alors c'est un livre qui est du coup qui donne, enfin qui cherche à donner envie de s'intéresser aux plantes et en particulier aux mousses. Et puis j'essaie effectivement que ce soit pas trop pontifiant et de donc oui, d'avoir quand même un petit peu de légèreté. Et donc ces petites mousses, elles ont plein de secrets et donc parfois je m'amuse un petit peu à voilà, j'essaie de rendre la lecture quand même assez légère et je pense que voilà, c'est digeste, enfin j'espère. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez fascinant, quoi, qui est assez passionnant, qui rejoint, je crois, la question de la mémoire. Ouais, qui rejoint la question de la mémoire parce que, bon, il y a quelque chose quand même d'une mémoire du monde vivant. Oui, il y a ce lien, bah, c'est souvent un petit peu, parfois. Il y en a des choses, des thèmes qui se retrouvent d'un à l'autre, mais enfin, dans le livre de Neige, ça prend 3 pages. Là, c'est vraiment un livre qui est consacré aux mousses. Donc, voilà. Et là, je crois que là aussi, donc, disons que la mémoire est questionnée, enfin, en tout cas, la dimension, comme ça, beaucoup plus vaste, quoi, de l'existence, quoi. Il y a quelque chose comme ça, de qu'est-ce qui nous relie, non plus à une époque ou à une société, mais vraiment ce qui nous relie fondamentalement à la vie elle-même, quoi, à la planète, donc à la vie elle-même. Et voilà, c'était aussi là encore agréable, quoi, c'est un livre important pour moi, je pense, parce que c'est effectivement une manière d'élargir encore un petit peu le cercle et de s'interroger sur le monde vivant. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de poésie là-dedans, en fait, dans la réalité assez extraordinaire, enfin, assez prodigieuse de ces plantes, parce que d'une part elles sont extrêmement belles, elles sont des couleurs, des lumières incroyables, elles ont des pouvoirs qui dépassent l'entendement et qui effectivement stupéfient notre imagination. Et puis elles ont, je pense, elles apportent vraiment, j'ai ressenti une grande joie, une grande sérénité à me connecter un tout petit peu à des êtres vivants qui sont extraordinaires, quoi, par leur simplicité, leur patience, leur résistance. Alors, il y a plein de choses. Donc, c'était une belle aventure. J'espère que voilà, c'est un livre qui va intéresser les gens différemment. Mais bon, c'est un livre qui sort, qui paraît aux éditions Rivage le 9 avril dans toutes les bonnes librairies.
Ok, c'est bientôt donc. Voilà. Eh ben, on va le lire avec plaisir. Enfin, je vais le lire avec plaisir, moi. C'était Ma rencontre avec le livre de neige d'Olivier Liron.